Vous écoutez, c'est pour ma pomme, le podcast qui parle des produits Apple et de leurs usages, mais pas que. Je suis David, bienvenue dans un nouvel épisode. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode spécial conférence de rentrée pour Apple. Alors clairement, j'ai attendu quelques jours avant d'enregistrer cet épisode car je ne savais vraiment pas quoi penser de la keynote de mercredi. Donc j'ai vraiment pris quelques jours de réflexion pour voir ce qui se disait sur Internet, pour voir toutes les news qui sortaient et pour affiner ma réflexion, pour vraiment pouvoir vous en parler et vous donner mon véritable avis. Alors, dans l'ensemble, je suis quand même assez déçu de tout ce qui a été annoncé. Mais à côté de ça, je me rends compte que tous les produits qui ont été annoncés, c'est quand même des bons produits. Donc au final, je ne sais pas vraiment ce qui me donne cette impression de déception. Mais bon, voilà, je vais vous donner mon avis sur tous les produits qui ont été annoncés. Et voilà, chaque produit, je vous donnerai un peu mon avis. Mais c'est vrai qu'il y a quand même certains produits qui me plaisent beaucoup plus que d'autres. Il y a des produits... Les avancées ne sont pas extraordinaires. Donc on va donc dans cet épisode faire le tour complet de tout ce qui a été annoncé ce mercredi 7 septembre par Apple. Alors on va commencer dans l'ordre où Apple les a présentés et Apple a bien sûr commencé après son petit speech de départ sur toutes les choses qui, enfin surtout sur l'Apple Watch qui peut sauver la vie et tout ça. Apple Watch a commencé par présenter la nouvelle Apple Watch, l'Apple Watch série 8. Alors, l'Apple Watch Series 8, au final, c'est une Apple Watch Series 7 avec très peu d'améliorations. C'est ni plus ni moins que la Series 7. Les deux grosses nouveautés qui ont été ajoutées à cette Series 8, c'est un capteur de température. Alors, capteur de température, oui, mais en tout cas, ils en ont fait la démonstration que pour les menstruations féminines. Donc voilà, on sait réellement pas à quoi va servir ce capteur de température. On sait déjà que ça va servir pour ça, mais est-ce que ça aura d'autres utilités dans le temps? Pour l'instant, on n'en sait réellement pas grand-chose. Autre grosse nouveauté qui a été annoncée sur l'Apple Watch Series 8, c'est ce qu'ils appellent le Crash Detection. On en avait parlé beaucoup dans les rumeurs. C'est un capteur qui permet, si vous venez à avoir un accident en voiture, d'appeler les secours tout de suite. Alors oui, c'est un capteur qui est vraiment très bien. Comme je l'avais dit dans un épisode, c'est un capteur qu'on va espérer ne jamais se servir. Mais voilà, c'est bien de l'avoir dans ce montre. C'est une bonne chose, mais c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Surtout que c'est quelque chose, on le savait depuis très longtemps que ça allait arriver. L'autre grosse nouveauté qui pour le coup peut être une bonne nouveauté, enfin en tout cas qui peut servir, c'est un low power mode sur l'Apple Watch comme sur les iPhones depuis très longtemps, ce qui va vous permettre à un moment ou à un autre quand vous voyez que la batterie commence à affaiblir un peu, à vous mettre en mode économie d'énergie pour tenir une fin de journée, pour tenir une fin de week-end, pourquoi pas. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui peut servir dans le temps. Je sais que moi, je m'en sers très peu souvent sur mon iPhone, mais voilà, il y a des jours où vous allez avoir de très longues journées ou un week-end où vous avez oublié un chargeur, au moins, vous aurez toujours ce système qui va vous permettre de gagner un tout petit peu de batterie sur votre montre. C'est à peu près tout ce qu'ils ont annoncé sur la série 8. Alors comme d'habitude, de nouveaux bracelets, de nouvelles watch face, de nouveaux sports supportés par l'application Workout. Enfin voilà, vous le voyez, c'est vraiment une amélioration incrémentale. C'est de petites choses, de petites touches, mais rien d'extraordinaire. En tout cas, si vous possédez un modèle 5, 6, 7, et c'est mon avis final sur cette série 8. Si vous possédez un 5, 6, 7, pour moi, il y a aucune raison de changer pour l'instant. En tout cas, pour cette série 8, on peut largement passer son chemin cette année. Après la série 8, ils sont passés sur l'Apple Watch SE. Alors l'Apple Watch SE, un peu comme la série 8, réellement aucune amélioration. Trois nouveaux coloris, un bleu, un gris, un doré. Et puis voilà, et puis c'est à peu près tout. Les grosses nouveautés qui ont été annoncées sur la série 8 sont aussi présentes sur l'Apple Watch SE. Le crash detection, le low power mode. Mais voilà, c'est réellement pas des avancées extraordinaires, en tout cas, pour cette année. C'est vraiment une année, en tout cas sur la série 8. Une année tampon, on va dire, avant peut-être de passer à cette série 9, possiblement, qu'on attend depuis très longtemps et dont j'avais parlé dans le dernier épisode. Cette série 9 qui est réellement carrée avec un nouveau design. En tout cas, ça sera encore pas pour cette année, en tout cas pas pour l'Apple Watch Series 8 et pour l'Apple Watch SE. Alors, au niveau des prix, sur la série 8, on est à 499 € prix de départ et sur l'Apple Watch SE à 299 € prix de départ. C'est peu ou prou les mêmes prix que l'année dernière. Donc voilà, si vous n'aviez pas d'Apple Watch, clairement passez sur cette série 8 parce que c'est la montre qui a le plus de fonctions à terme. Mais si vous, comme je vous l'ai dit, si vous possédez, alors peut-être plus la 4 maintenant parce qu'elle commence vraiment à accuser son âge, mais si vous possédez une 5, 6, 7, vous pouvez largement faire l'impasse sur ce modèle de cette année. Alors, ça, c'est les modèles, comme je l'avais dit dans le dernier épisode, c'est les modèles de base, c'est les modèles qu'on connaît depuis très très longtemps, qui ont été renouvelés cette année. On le savait qu'Apple, pardon, devait présenter une nouvelle montre cette année. Alors, on était parti sur l'Apple Watch Pro lors du dernier épisode, l'épisode de rumeurs. Au final, ce ne sera pas une Apple Watch Pro, ça sera une Apple Watch Ultra qui sera la nouvelle montre de la gamme chez Apple. Apple Watch Ultra, montre très très différente des modèles que l'on connaît déjà. Si les modèles que l'on connaît déjà sont des montres, on va dire, plus habillées, là, clairement, l'Apple Watch Ultra, c'est une montre taillée pour le sport, ne serait-ce que par son design. Le design de l'Apple Watch Ultra est beaucoup plus massif, beaucoup plus carré, même si on va en reparler juste après. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent, mais c'est beaucoup plus massif, beaucoup plus carré. C'est réellement une montre faite pour le sport, taillée pour l'aventure, qui va aller chasser sur le terrain des montres Garmin et tous les autres constructeurs qui font des montres dans ce style-là. Alors, l'Apple Watch Ultra, c'est une montre de 49 mm. Entièrement en titane, avec un verre saphir pour protéger l'écran. C'est clairement un design qui ne plaira pas à tout le monde. Alors si vous l'avez pas vu, c'est clair qu'en podcast c'est assez difficile de vous dire à quoi ça ressemble, mais allez la voir sur le site d'Apple. De face, elle a à peu près le même design que les Apple Watch normales, on va dire. Mais il y a une excroissance sur le côté qui permet de protéger la Digital Crown ainsi que le bouton. Vraiment une excroissance assez visible. En plus de ça, on a un autre bouton qui fait son apparition de l'autre côté de la montre, un bouton qui sera entièrement customisable. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur l'Apple Watch Ultra? Alors, vu que c'est une montre taillée pour l'aventure, taillée pour le sport, c'est une montre qui aura une très très grosse autonomie, en tout cas beaucoup plus grosse que les Apple Watch d'entrée de gamme. Apple annonce 36 heures d'autonomie sur une seule charge et jusqu'à 60 heures en mode économie d'énergie, ce qui est vraiment vraiment très bien. On va enfin pouvoir tenir plus de 2 jours avec son Apple Watch si on n'utilise pas toutes les fonctions. Autre chose qui est enfin disponible sur cette Apple Watch, un Night Mode qui vous permet encore de gagner de l'énergie, mais plus que ça, qui vous permet d'avoir un écran qui sera moins violent, parce que l'Apple Watch Ultra aura un écran qui va délivrer jusqu'à 2000 nits, ce qui est clairement très très puissant en termes de luminosité, et pour les utilisations pour laquelle elle est prévue, que ça soit de la plongée, que ça soit enfin tout ce qui est de sport très très extrême, le fait d'avoir 2000 nits de luminosité, c'est vraiment vraiment une bonne chose. Mais le fait d'avoir un night mode, un mode nuit, qui va permettre d'avoir un écran beaucoup plus sombre et moins agressif, ça peut être aussi ça peut être aussi une réelle bonne chose. Apple a présenté de nouveaux bracelets pour cette Apple Watch. Alors, je vais crever l'abcès directement. On parlait beaucoup, surtout lors du dernier épisode, du fait que justement cette Apple Watch, alors nous on l'appelait Pro, mais cette Apple Watch Ultra aurait un diamètre plus grand, et on se posait réellement la question, parce que c'est une rumeur qui était tombée ces dernières semaines, que les bracelets de l'ancienne Apple Watch, des anciennes Apple Watch, ne seraient plus compatibles avec la nouvelle. Alors, pour crever l'abcès tout de suite, Apple a fait un communiqué sur son site internet. À part quelques exceptions, tous les bracelets seront encore rétrocompatibles, c'est-à-dire que des bracelets que vous avez pour votre Apple Watch 7 pourra très bien fonctionner sur une Apple Watch Ultra, et inversement, des bracelets d'Apple Watch Ultra pourront très bien fonctionner sur des Apple Watch 7, 6 et 5, je crois. La 4, je ne suis pas certain, mais 7, 6 et 5, c'est sûr et certain. Donc voilà, on a une rétrocompatibilité sur les bracelets, et c'est réellement une bonne chose. Comme je l'avais expliqué, moi j'en ai presque une centaine des bracelets, donc ça aurait été réellement dommage de plus pouvoir s'en servir et d'avoir mis tout cet argent dans des bracelets pour rien. Autre chose qui a été réellement améliorée, et c'est un fait, vu que c'est une montre qui est taillée pour le sport, pour l'aventure, il fallait améliorer le GPS et la boussole. Donc vraiment, là sur cette montre, et c'est là que je dis qu'Apple va taper sur les terres de Garmin, on a réellement un nouveau GPS très très puissant, une nouvelle boussole réellement beaucoup plus puissante, avec de très très bonnes fonctions sur cette Apple Watch Ultra. Et c'est franchement, c'est une belle montre. Alors, c'est une montre qui sera vendue au prix de 999 €. On le savait aussi, on s'attendait à plus de 1 000 € au final. Même si ce prix est réellement cher, on peut dire que par rapport à la concurrence, aux montres qui sont qu'ont à peu près le même type de fonction dans la concurrence, on est quasiment sur les mêmes prix. Et en plus de ça, l'Apple Watch a des fonctions en plus, beaucoup de fonctions en plus par rapport à des montres Garmin et à tous ses concurrents. Donc réellement 999 €, même si ça peut paraître cher au premier abord, c'est un prix qui pour moi me paraît assez raisonnable pour une montre de ce style-là. Alors, mon avis sur cette Apple Watch Ultra. Alors pour moi, clairement, c'est la grosse annonce de cette conférence. Si je devais retenir qu'une chose de cette conférence du 7 septembre, ça serait l'Apple Watch Ultra. Ça devient clairement une référence en termes d'Apple Watch déjà, et j'irais même plus loin en termes de montre taillée pour le sport, pour l'aventure, et même plus particulièrement pour les sports extrêmes. Donc là je pense qu'Apple a clairement tapé un grand coup au niveau des montres connectées, encore plus qu'avant, parce que bon, Apple était déjà le premier sur ce segment des montres connectées, mais là ils mettent la barrière encore plus haut. Alors selon moi, deux points noirs quand même, je vois deux points noirs sur cette Apple Watch, même si, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est la grosse annonce, pour moi c'est la chose que j'ai préférée dans cette conférence, mais je lui trouve quand même deux petits points noirs. Alors déjà, son design, parce que c'est vraiment un design qui est assez bizarre. Je ne vais pas dire que c'est moche, mais c'est plutôt bizarre. Moi je m'attendais, alors on s'attendait tous même à une Apple Watch réellement carrée, comme on l'avait vu depuis plus d'un an dans les rumeurs. Alors ça arrivera peut-être sur une Apple Watch. Pas une Apple Watch Ultra, une Apple Watch normale dans les gammes des années futures. Mais là, le design de l'Apple Watch Ultra est réellement un peu bizarre. Sur le bas de la montre, on garde cette forme arrondie qu'on a sur nos Apple Watch, Apple Watch 7, Apple Watch, enfin depuis la première. Et sur le dessus, ça fait une forme un peu de tulipe. Qui, comme je vous le dis, part de l'arrondi en bas pour aller beaucoup plus carré quand on se rapproche de l'écran. Et réellement, alors ça, plus l'excroissance qu'il y a sur le côté, même si je trouve pas que c'est moche, mais clairement, c'est un design qui va pas plaire à tout le monde, déjà, premièrement, et c'est un design qui va faire parler, je pense. Donc pour moi, c'est le premier point noir, si je peux réellement appeler ça un point noir, mais c'est le premier point qui me dérangerait un petit peu, c'est son design. Autre point noir qu'on pourrait lui trouver, son prix, 1 000 €, qui va en repousser clairement plus d'un. Mais par contre, même si ça en repousse beaucoup, le fait qu'elle soit à 1000 euros par rapport aux Apple Watch normales, qui sont aux alentours de 500-600 euros, mais je pense réellement que c'est quand même une montre qui va se vendre comme des petits pains. Et pourquoi pas dans les années futures, cette montre va descendre en prix, quand ça sera la deuxième mouture, la troisième. C'est une montre qui va s'affiner, mais réellement, si je veux vous faire passer un message et que vous reteniez une chose, pour moi, si je lui trouve ces points noirs, pour moi, c'est quand même la grosse annonce de cette conférence. Donc voilà, après, c'est tout ce qu'ils ont annoncé concernant les Apple Watch. Après, nous sommes passés directement aux AirPods Pro. Comme je vous l'avais dit, alors j'allais dire lors du dernier épisode, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça fait plus de 6 mois que je vous dis que s'il y a une annonce que j'attends réellement lors de cette conférence de rentrée, c'était les AirPods Pro de deuxième génération. Déjà parce que c'est un produit que j'utilise énormément tous les jours. Et deuxièmement parce que les miens ont rendu l'âme il y a quelques semaines maintenant. Donc j'attendais énormément de ce produit. J'avais d'ailleurs fait un article il y a très peu de temps sur le blog qui parlait des leaks qui étaient tombés il y a quelques semaines concernant ces AirPods Pro. Donc réellement j'en attendais beaucoup, beaucoup. Les AirPods Pro deuxième génération ont été annoncés. Alors qu'est-ce que ces AirPods embarquent de nouveau? Une nouvelle puce H2 qui est clairement la remplaçante de la puce H1. Alors on se doute qu'elle va être un peu plus puissante, mais rien d'extraordinaire. Une amélioration du spatial audio, une amélioration de la réduction de bruit, selon Apple, deux fois meilleure que sur les AirPods de première génération. Une amélioration du mode transparence qui serait maintenant adaptatif. Alors ça va falloir tester. Mais vous savez, ce mode transparence sur les AirPods Pro, c'est ce mode qui vous permet d'écouter votre musique, mais en même temps d'entendre ce qui se passe à l'extérieur. Et avec ce mode transparence adaptatif qu'Apple aurait implémenté dans cette deuxième génération, alors comment vous expliquer simplement? Bah, ça sera le mode transparence des AirPods Pro première génération, mais si vous êtes dans une rue et qu'il y a réellement un bruit très 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 fort à côté de vous, eh ben l'AirPods prendra la décision lui-même de mettre en atténuation de bruit pour bah justement pour ne pas que vous entendiez les bruits réellement très très forts, genre un bus qui klaxonne, un marteau piqueur à côté de vous, enfin voilà, tous ces types de bruits vont vraiment être atténués beaucoup plus. Mais à côté de ça, quand il y aura peu de bruit à côté de vous, bah vous aurez un mode transparence totalement normal comme on l'avait sur les premières générations. Autre nouveauté, alors on va dire que certains attendaient, oui, mais que on se demandait pourquoi ça n'avait pas été implémenté dans la première génération. On va enfin pouvoir monter et descendre le volume directement sur la petite branche des écouteurs par un swipe vers le haut ou vers le bas. Alors clairement, c'est une fonction maintenant. Enfin, les gens comme moi qui ont les AirPods Pro première génération depuis le début, on s'est habitué à faire autrement. Mais on se demandait clairement pourquoi ça avait pas été implémenté depuis le départ sur la première génération. Donc c'est bien qu'Apple l'implémente dans la deuxième. Est-ce que ça va réellement servir? Oui, il va falloir se réhabituer à faire comme ça, mais voilà, c'est une petite avancée. Est-ce que c'est l'avancée du siècle? Clairement pas. Enfin, pour moi, clairement pas. Autre nouveauté, enfin nouveauté, on aura maintenant droit à une fonction localisée sur le boîtier des AirPods, comme on l'a sur les AirTags, comme on l'a sur l'iPhone. Donc oui, c'est aussi une bonne chose. C'est des avancées qu'on attendait réellement sur les AirPods, enfin du moins selon les rumeurs qui étaient tombées ces derniers mois. Donc c'est une bonne chose. Après, comme je vous dis, et c'est un peu l'ensemble de cette keynote qui est comme ça. Oui, c'est des nouveautés, c'est bien que ça soit annoncé, mais est-ce que c'est des nouveautés extraordinaires? Non, c'est incrémental, c'est de petites choses qu'on attendait, et comme cette fonction localisée, comme cette fonction de monter et descendre le volume sur les branches des AirPods, c'est des fonctions, oui, c'est des bonnes choses, mais pourquoi ça n'avait pas été implémenté dès les premières générations? Je ne pense pas que ça soit des fonctions qui soient très très difficiles à implémenter. C'est toujours le problème avec Apple. Ils peuvent l'implémenter sur les premières générations, mais ils s'en gardent sous le pied pour avoir des nouveautés sur les générations suivantes. Dernière nouveauté qui a été annoncée sur ces AirPods Pro de deuxième génération, une compatibilité MagSafe. Vous pourrez maintenant recharger votre boîtier directement sur un chargeur MagSafe ainsi que sur le chargeur de votre Apple Watch. C'est une bonne chose quand on n'a pas un chargeur Lightning près de soi. C'est une bonne chose, mais comme tout le reste, c'est pas extraordinaire. Alors, le prix de ces AirPods Pro deuxième génération, 299 €. Au passage, hop, Apple a mis 20 € par rapport à la génération précédente. Pour le peu de nouveautés sur ces modèles, est-ce que ça valait vraiment le coup de mettre 20 € en plus? Je ne sais pas. Alors, mon avis réel sur ces AirPods Pro, ben, je les attendais moi avec impatience et je vais les prendre. Clairement, pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, mes anciens AirPods Pro sont HS, donc je dois bien avouer que je vais les prendre. Je suis un peu obligé de les prendre, mais je suis quand même déçu. Je m'attendais à un peu plus de nouveautés en termes de capteurs sur les AirPods Pro. On nous avait fait miroiter dans les rumeurs pas mal de capteurs sur ces AirPods Pro, donc je m'attendais à beaucoup plus de choses. Et j'ai vraiment du mal à comprendre la justification de l'augmentation de 20 € par rapport aux anciens modèles, au vu des maigres améliorations qu'on a sur ces modèles. Donc comme je vous le dis, je vais les prendre, je vous les testerai sur le blog. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être testé pour le peu d'amélioration? Je les testerai quand même, mais je suis quand même un peu déçu. Donc c'est tout pour les AirPods Pro. Comme vous le voyez, c'est réellement pas foufou au niveau des nouveautés. Après, ils sont passés directement sur les iPhones. On le sait, c'était la grosse part de cette keynote. Et comme tous les ans en septembre, cette keynote est réservée aux iPhones. Donc l'iPhone passe en dernier. Il faut pas que quelque chose entache la présentation de l'iPhone. Il faut bien que les gens se souviennent des nouveaux iPhones. Donc ils les font toujours passer en dernier lors de la keynote. Donc on a commencé directement par les modèles de base, si je puis dire, les iPhone 14 et les iPhone 14 Plus. On savait, on s'y attendait, qu'il allait avoir un nouvel iPhone d'entrée de gamme, si on peut dire, un iPhone non pro, mais qui, à la différence de l'année dernière, qui est un iPhone mini, maintenant on repasse sur des modèles plus, comme c'était le cas sur les 6, les 7, tous ces téléphones-là. Donc même design que les modèles pro de l'année dernière, un design beaucoup plus carré. Maintenant, aïe, chez Apple, les designs très ronds, c'est fini. J'ai l'impression que c'est réellement fini. Je ne suis même pas sûr, faudrait que je regarde si dans la gamme il y a encore des téléphones qui ont l'ancien design. Mais voilà, c'est maintenant. Quasiment tous les derniers téléphones ont ce design très carré avec ses bords très francs, que pour ma part j'aime bien, mais voilà, ça ne plaît pas à tout le monde pour le coup, mais bon, maintenant si quelqu'un veut un iPhone, il sera obligé de choisir avec sur un téléphone de ce design-là. Comme dans les rumeurs, on le savait, c'est un téléphone de 6, enfin c'est des téléphones de 6,1 et 6,7 pouces. 5 couleurs pour ces nouveaux téléphones, un rouge, un bleu, un violet, un blanc et un noir. Alors, si je me trompe pas, la nouvelle couleur, ça doit être le violet, qui est assez pâle de ce que je vois. C'est vraiment pas des couleurs très franches. Ça peut plaire à une certaine catégorie de personnes. Pour ma part, à part le noir, et j'ai toujours pris mes téléphones moi dans des coloris foncés, donc à part le noir, moi il n'y a pas réellement de couleur qui me donnerait envie sur cette nouvelle gamme d'iPhone. Mais bon, voilà. En tout cas, ça sera les couleurs de cette année pour les iPhone 14 et les iPhone 14 Plus. Pareil, comme on le savait lors des rumeurs, enfin comme ça avait été dit, c'était pas sûr, mais comme ça avait été dit, cet iPhone 14 garde la puce A15 des modèles de l'année dernière. Des modèles pro de l'année dernière. C'est une segmentation au niveau des puces. Maintenant, j'ai l'impression que vraiment que chez Apple, ça va être comme ça tout le temps. Les modèles de base vont garder la puce de l'année précédente. Seuls les modèles pro auront droit aux nouvelles puces. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Ça doit être Ça doit être une bonne chose, en tout cas pour Apple, qui doit faire des économies sur les coûts de fabrication. Parce que autrement, je ne vois pas pourquoi ils auraient cette politique-là. Mais bon, voilà. En tout cas, ça sera comme ça maintenant sur les nouveaux iPhones. Au niveau de la photo, rien de très fou, je dois bien l'avouer, sur ces nouveaux iPhones. Un capteur 12 mégapixels, comme ça a été le cas sur les anciens modèles. Donc, réellement. Ben, c'est comme tout le reste pour l'instant. Pas de réelles grosses avancées, pas de gros trucs extraordinaires. Alors, si la grosse chose dont on pourrait parler concernant ces iPhones, alors c'est une grosse chose pour certains. Moi, je vais vous donner mon avis sur cette chose. Mais c'est les appels d'urgence via satellite. On en avait beaucoup parlé. C'était d'ailleurs, enfin moi je me posais la question lors du précédent épisode sur la signification de l'invitation d'Apple pour la keynote. On le sait, on voyait un nuage d'étoiles et on se demandait si ça avait un rapport avec les appels d'urgence via satellite ou bien avec l'amélioration du capteur photo des modèles pro qui pourrait permettre de faire de l'astrophotographie. Bon, bah, au final, on peut être sûr et certain, c'est que l'invitation parlait bien, en tout cas montrait bien ces appels d'urgence via satellite. Alors, c'est une bonne chose d'avoir les appels d'urgence via satellite, mais comme je l'ai dit sur Twitter hier, après la keynote, moi je trouve quand même assez bizarre. Alors, pour vous expliquer, les appels d'urgence via satellite vont être gratuits pendant 2 ans sur les iPhone 14. Et bien sûr les iPhone 14 Pro, mais on en reparlera après. En tout cas, pour l'instant, aux US et au Canada, ça va être gratuit pendant 2 ans, et après, ça sera donc un service payant. Alors, oui, je comprends totalement qu'Apple soit une entreprise qu'il faut qu'elle fasse du bénéfice, et j'ai aucun problème là-dessus, au contraire, mais s'il y a bien une fonction, une seule fonction, je pense, en tout cas c'est mon avis personnel, s'il y a bien une seule fonction qu'il fallait rendre gratuite, c'est bien celle-ci. Parce que ben, c'est une fonction de sécurité. Alors, si on part de ce principe que après 2 ans, cette fonction sera payante, quelqu'un qui n'a pas les moyens de se la payer, qui va se retrouver dans un endroit où il n'y a pas de réseau, ne pourra pas appeler l'urgence. Je trouverais réellement ça un peu bizarre. Apple fait cadeau de certaines fonctions sur ces iPhones et cette fonction-là la rend payant au bout de 2 ans, franchement j'ai un peu de mal. Alors peut-être qu'on ne sait pas tout, peut-être que comme je l'ai entendu hier dans un podcast, peut-être qu'Apple va tester pendant 2 ans pour voir si c'est une fonction qui est beaucoup utilisée et qui par la suite la rendra gratuite. Mais clairement, le fait d'avoir annoncé là que c'était seulement gratuit pendant 2 ans pour les possesseurs d'iPhone 14 et 14 Pro et qu'après ça serait payant, j'ai un peu de mal avec cette façon de faire. Comme je vous le dis, il va falloir voir sur le temps, après ces 2 ans, ce qu'Apple va faire de cette fonction. Ça se trouve, c'est une fonction qui ne sera pas du tout utilisée et qui ne restera pas à terme sur les téléphones. Donc vraiment, faudra voir sur le temps. Les prix maintenant concernant ces iPhone 14 et 14 Plus. Alors l'iPhone 14 normal, de taille normale, le petit iPhone 14, part de 1019 euros. Je vous donne les prix en France, hein, bien sûr. Part de 1019 euros en 128 Go et va jusqu'à 1409 euros en 512 Go. Alors tous les iPhones. Pour être clair, cette année, tous les iPhones ont augmenté. Comme ça, il n'y en a clairement pas un qui est moins cher que les autres années. Tous les iPhones ont pris de quelques dizaines à presque une centaine d'euros. L'iPhone 14 Plus, quant à lui, est à 1169 euros en 128 Go et va jusqu'à 1559 euros en 512 Go. Donc voilà, vous voyez que c'est réellement des prix. On est maintenant passé au-dessus des 1000 euros pour le plus petit des iPhones, en tout cas des nouveaux iPhones. L'iPhone 14 normal en 128 Go est au-dessus des 1000 euros, à 1019 euros. Donc les prix commencent à réellement être chers chez Apple. Alors, enfin, moi voilà, je continuerai à acheter des iPhones, mais je comprends clairement que pour certaines personnes, ces prix peuvent réellement rebuter et que des gens se tournent vers Android. C'est pas quelque chose que je ferai. Attention, je ne dis pas que je vais changer de crèmerie et que je vais aller chez Android. C'est pas quelque chose que je ferai. Mais je peux clairement comprendre que maintenant, beaucoup de personnes aient des réticences à acheter des iPhones neufs. En tout cas, parce que les prix commencent à réellement piquer. Après ces iPhones de base, on va dire, Apple a présenté le flagship de chaque année, l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 Pro Max. Alors, la nouvelle couleur de cette année, ça sera le violet. Un violet qui est pour le coup un peu plus péchu que sur les modèles de base. Donc clairement celui-là, ouais, il me plaît bien. C'est pas une couleur que je prendrais, mais c'est une couleur qui est assez jolie pour le coup. Alors, les grosses nouveautés concernant cet iPhone 14 Pro, parce que c'est quand même le point d'orgue de cette keynote, donc c'était là-dessus sur lequel on s'attendait aux plus grosses nouveautés. Alors, dans les rumeurs, il était dit, et depuis des mois on en parlait, qu'il y aurait sur l'écran maintenant des modèles Pro une petite. Alors que l'encoche disparaîtrait déjà, au profit d'une pilule et d'un point. Et dans ces dernières semaines, ces derniers jours avant la conférence, le point avait disparu dans les rumeurs. C'était simplement une pilule, et au final, c'est ce qu'on a eu. C'est une pilule, une simple pilule en haut de l'écran, un peu plus grosse que ce qui était prévu au départ. Mais voilà. En tout cas, on a plus les deux points, ce point d'exclamation couché comme c'était prévu depuis dans les enfin c'était prévu comme c'était dit dans les rumeurs depuis plusieurs mois. Le fait que cette encoche ait disparu et que cette pilule soit apparue maintenant sur l'écran des iPhones, on se demandait clairement comment Apple allait nous l'amener, allait nous le vendre. Et je pense qu'ils ont trouvé la solution pour nous vendre ce nouveau système. Et je dois bien avouer, si tout à l'heure je vous ai dit que l'Apple Watch Ultra pour moi était le point d'orgue de cette conférence, la chose la plus importante de cette conférence, s'il y a bien une deuxième chose que j'ai retenue, et ça sera les seules au final, autant vous spoiler tout de suite mon avis final sur la conférence, s'il y a une deuxième chose que j'ai retenue de cette conférence, c'est comment ils ont implémenté cette nouvelle façon de faire, cette pilule qui va embarquer les capteurs de Face ID. Alors, ils nous ont amené ça en nous annonçant une nouvelle fonction qu'ils ont appelée Dynamic Island. Alors, le nom, c'est des noms à la Apple, clairement. Est-ce qu'ils auraient pu trouver mieux? Bon, ça, c'est leur problème. Mais la fonction en elle-même, c'est réellement une très très bonne fonction. Alors, pour vous expliquer, l'encoche, quand vous aurez votre écran normal, quand vous allez allumer votre téléphone, vous allez voir votre encoche noire. Mais au fur et à mesure que vous allez utiliser votre téléphone, cette encoche va se transformer et va permettre de faire sortir toutes les notifications, alors que ça soit les notifications d'appel, que ça soit les notifications d'appairage de vos AirPods, tous ces types de notifications qui apparaissent sur votre téléphone sortiront directement de cette encoche. Et réellement, c'est là qu'on se dit qu'Apple est une société, même s'ils n'implémentent pas les choses au premier jour, comme pourrait le faire Samsung, comme pourrait le faire d'autres. Apple attend des fois 1 an, 2 ans avant d'implémenter quelque chose. Mais en termes de design, en termes d'interface utilisateur, en termes d'UX, je vais encore passer pour un fanboy quand je vais dire ça, mais Apple est largement, très 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 largement au-dessus de la mêlée en termes de design. Quand on voit, prenez tous les téléphones Android qui ont cette pilule sur l'écran depuis des 2-3 ans, des fois ils en ont rien fait, c'est une pilule plantée au milieu de l'écran. Là, Apple a réellement apporté des animations qui permettent au final De ne plus la voir, cette encoche. Vous aurez des notifications quasiment tout le temps en haut de l'écran qui pourront vous servir dans votre vie quotidienne. Et au final, cette pilule, cette encoche va totalement disparaître. On ne la verra plus. Ça sera totalement intégré dans l'écran. Donc, clairement, enfin, pour moi, c'est un coup de maître, en tout cas au niveau de l'implémentation du système Dynamic Island de cette pilule sur l'écran de l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Autre nouveauté qu'on attendait beaucoup sur les nouveaux iPhones, c'est le Always On Display. Alors, Apple l'a implémenté d'une façon un peu différente de ce que je pensais. Ça avait un peu fuité dans les rumeurs ces derniers jours. On s'attendait réellement à avoir un écran noir avec simplement l'heure et quelques notifications ou quelques informations sur l'écran. Là, c'est un peu différent. On verra encore notre fond d'écran quand on sera en Always On Display. C'est réellement bien fait. C'est assez fin. Donc c'est une bonne chose et ça permettra en tout cas de gagner de la batterie sur nos téléphones. Les autres choses qui ont été annoncées, une nouvelle puce, bien sûr, une puce A16 améliorée par rapport à la puce de l'année dernière, et blablabla et blablabla. On le sait tous les ans, la nouvelle puce. Je vais pas vous le détailler tout ce que fait cette puce. On sait que c'est une puce beaucoup plus puissante que l'année dernière, et c'est comme ça tous les ans. Donc c'est une bonne chose, hein. Attention, je ne dis pas que c'est quelque chose de mal, mais c'est une bonne chose, mais on en a l'habitude maintenant. La dernière chose qu'ils ont annoncé, on le savait, un capteur 48 mégapixels pour la caméra, ce qui va clairement permettre d'améliorer les photos, d'améliorer les vidéos. Je pense que je vous en parlerai un peu plus finement sur un article de blog ou peut-être sur un autre épisode de podcast parce que je pense qu'il y a réellement beaucoup de choses à dire sur ce nouveau capteur, mais va falloir voir les tests qui vont être faits, des photos qui vont être faites avec ce nouveau capteur avant de réellement pouvoir définir si c'est une grosse amélioration. Voilà, c'est à peu près tout les grosses nouveautés de l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Alors au niveau des prix, attention, encore là, sur ce coup-là, ça pique énormément. L'iPhone 14 Pro commence à 128 Go à 1329 euros et va jusqu'à 1 Tera à 1979 euros. Le modèle Pro, j'ai pas parlé du Pro Max, bien sûr. Quant au Pro Max, on part de 1479 euros en 128 Go et attention, on va dépasser la barre des 2000 euros, on va jusqu'à 2129 euros en 1 Tera. Aïe, l'iPhone a enfin dépassé les 2000 euros. Là, réellement, ça pique. Bon, alors, l'iPhone en 1 Tera n'est pas utile à tout le monde. Mais pour le coup, moi qui tous les ans prends un iPhone en 512 Go, bah là, si je regarde sur mes captures d'écran, le Pro Max, en tout cas en 512 Go, donc c'est-à-dire le même modèle ou l'équivalent du modèle que moi j'ai, il est à 1869 euros. Je crois que c'est quasiment entre 50 et 70 euros de plus que le 13 Pro Max de l'année dernière. Donc voilà, les prix ont réellement encore augmenté cette année. Pour le coup, moi, je ne vais pas changer d'iPhone cette année. Je ne vais pas changer d'Apple Watch non plus cette année. Non pas que j'en ai pas envie. Mais clairement, les nouveautés du 14 Pro Max sont pas assez importantes pour justifier un changement cette année. Le 13 Pro Max que j'ai de l'année dernière fait encore totalement bien le travail. Donc je vais clairement passer mon tour pour cette année. Je prendrai certainement le modèle de l'année prochaine. Mais je vais passer mon tour. Autre chose, là je fais un petit retour en arrière, mais autre chose, j'y pense parce que je suis en train de regarder mon téléphone qui est à côté de moi. Autre chose, le connecteur Lightning est toujours bien présent sur les iPhones. On n'est pas passé à l'USB-C encore cette année, et je l'avais dit dans beaucoup d'épisodes, c'est quelque chose que moi je prédis, l'iPhone ne passera jamais à l'USB-C, même si l'Union européenne essaie de pousser Apple. Pour passer à l'USB-C, l'iPhone ne passera jamais à l'USB-C. Je pense qu'Apple essaye de tirer jusqu'à la fin d'année 2024, où ça sera obligatoire. Donc les iPhone 15 de l'année prochaine, pour nous annoncer que l'iPhone n'a carrément plus de port de recharge et ne se recharge que plus que par du sans fil. Donc voilà, encore cette année sur les modèles Pro, ça sera encore un connecteur Lightning. Donc pour finir, mon avis sur la gamme complète des iPhones, bah le 14 de base n'a que très peu d'intérêt. Alors si vous partez de très loin, si vous avez de très vieux iPhones, oui, ça peut être une bonne chose de passer sur le 14. Pour les gens qui ont des iPhones assez récents, le 14, très peu d'intérêt, peu de grosses nouveautés, la même puce que les modèles Pro de l'année dernière. C'est une jolie évolution mineure, mais c'est vraiment loin d'être une révolution. Donc c'est clairement, si vous avez des modèles qui ne sont pas très vieux, on va dire des modèles qui sont après iPhone X, vous pouvez largement les garder encore cette année et attendre l'année prochaine pour les modèles 15. Concernant les modèles Pro, bah là aussi très peu d'évolution par rapport au 13 Pro. Quelques améliorations en termes de photos et de vidéos, comme tous les ans, qui sont les bienvenues, hein, mais bon voilà, c'est de petites améliorations. La grosse nouveauté, par contre, si on peut retenir une grosse nouveauté des 13 Pro et 13 Pro Max, là où j'ai été réellement bluffé, c'est, comme je vous l'ai dit, cette fonction Dynamic Island. C'est vraiment là qu'on voit qu'Apple gère à 100% son sujet concernant le design, l'interface utilisateur. Je pense qu'encore sur ce coup-là, même si c'est une petite chose, si pour certains ça peut être anecdotique, mais voilà, c'est là qu'on voit qu'Apple a encore tapé un grand coup en termes de design, en tout cas en termes de design d'interface. Et clairement, pour moi, c'est un des deux points très importants de cette conférence. Donc voilà, c'est pour moi c'est les grosses nouveautés de cette conférence. Alors certains ont été marqués par l'arrivée des appels satellites. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, ça peut être une grosse nouveauté, mais il faudrait que ça soit utile à tout le monde. Et pour que ça soit utile à tout le monde, il faudrait à terme que ça soit gratuit et que tout le monde puisse l'utiliser, que ce soit des gens qui ont les moyens, comme des gens qui n'ont pas les moyens. Tout le monde peut être coincé un jour ou l'autre dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Donc voilà, pour moi, le jour où Apple annoncera qu'une telle fonction est gratuite ou implémentée directement dans le téléphone, oui, pour moi, ça sera une fonction importante. Pour l'instant, j'ai un peu de mal. En tout cas, sur le fait que c'est une fonction qui va être gratuite pendant 2 ans et qui après sera payante. En plus de ça, il va falloir voir à quel prix ça sera payant. Ça se trouve, ça sera un abonnement en plus qui sera peut-être pas très très bon marché. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont été bluffés par cette fonction. Moi, beaucoup moins en tout cas. Si la fonction est intéressante, l'implémentation pour moi a été mal réalisée sur ce coup-là. Voilà, c'est tout pour cette récap de la conférence du 7 septembre. Comme je vous l'ai dit au début, Apple pour moi a présenté des bons produits. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même un léger goût de déception quand même sur cette conférence. Il y a des points qui m'ont réellement bluffé, hein, je vous en ai parlé tout au long de cet épisode. Il y a des points qui m'ont réellement bluffé, mais dans l'ensemble, c'est quand même une keynote qui m'a un peu déçu. Donc j'attends beaucoup des prochaines conférences, surtout que les prochaines conférences, normalement, devraient parler de produits qui m'intéressent beaucoup plus. Mais en tout cas, dites-moi, vous, ce qui vous a plu ou déplu lors de cette présentation. De toute façon, tous les liens pour me joindre sont dans les notes de l'épisode. Je serais clairement curieux de connaître votre ressenti sur cette conférence du 7 septembre. Donc voilà, dites-moi tout ça sur les canaux où vous pouvez interagir avec moi. Sachant qu'on n'a pas eu de présentation d'iPad, comme je l'avais dit lors du précédent épisode, comme je l'avais prédit en tout cas lors du précédent épisode, donc on peut s'attendre à une nouvelle conférence dans le mois d'octobre. Normalement, fin du mois d'octobre, on peut s'attendre à une nouvelle conférence qui va nous présenter les nouveaux iPad Pro. Et là, je suis clairement très très pressé de voir ce qu'Apple va nous annoncer. Donc, on va dans quelques semaines, les rumeurs vont commencer à tomber, je pense, là dans quelques jours. Maintenant que la conférence du 7 septembre est passée, on va avoir droit aux nouvelles rumeurs sur les nouveaux produits qui vont être annoncés lors de la prochaine conférence. Donc voilà, il y a pas de souci à se faire là-dessus. Je pense qu'Apple va revenir avec une conférence dans très peu de temps, dans les semaines à venir. N'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode, allez lui mettre bien sûr 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et surtout à le partager sur vos réseaux sociaux pour le faire connaître à plus de monde. Quant à moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté sur cet épisode. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous donne bien sûr rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !